Bonjour et bienvenue, ce message vous est présenté par le Centre d'Adoration Vie Abondante, en sigle SAVA. Notre désir est que en l'écoutant vous soyez révolutionné par une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et que votre passion pour Dieu s'intensifie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 1-617-387-1244 ou à l'adresse email suivante info@laviabondante.org. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse.
Donner le titre du message d'aujourd'hui. Toujours aimer Dieu par la loi de l'honneur, nous allons dire faire de Dieu ton trésor. Est-ce qu'on peut dire fais de Dieu ton trésor? Le passage de base est dans Proverbes chapitre 3, verset 9. Il dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Est-ce que, avant de continuer, on peut juste bénir le Seigneur pour la semaine de prière que nous avons eue intense et vraiment. Et tout ce qu'il a fait pendant cette semaine ici, vraiment, je bénis Dieu pour la parole, pour la présence, pour tout ce qu'il a fait de tout mon cœur. Merci. Et Dieu nous a parlé, il a dit qu'il veut nous rendre fertiles. Et après ce temps ici, il nous a rendu fertiles, nous le bénissons pour ça. Je reçois cela, est-ce que tu peux recevoir aussi? Amen. Le passage de base donc de l'enseignement ici est dans Proverbe 3 qui dit honore, ça veut dire donne la première place. L'Éternel, comment? Pas avec la bouche, pas en parlant, mais il dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Je vais revenir sur ça, mais juste pour vous mettre tout dans le contexte, Dieu nous a donné un message intitulé la rade, qui veut dire la révolution des amoureux de Dieu. Pourquoi c'est une révolution? Parce que ça affecte notre mentalité, notre façon de voir. Ça affecte comment est-ce que nous voyons, notre perception, notre philosophie de la vie. L'amour de Dieu te pousse à voir les choses différemment. Les gens qui étaient rejetés maintenant sont acceptés. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les choses qui étaient une priorité pour toi ne sont plus une priorité parce que l'amour de Dieu affecte ta mentalité, ta façon de voir. Une révolution, c'est-à-dire que maintenant que tu es révolutionné, même ton comportement suit la nouvelle mentalité que tu as. Le message que Dieu nous a donné, donc, qui s'appelle la révolution des amoureux de Dieu, la rade, est basé sur le passage de Matthieu 22, à partir du verset 36 jusqu'à 38, qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, ton cœur et ta pensée. » C'est le premier commandement, mais voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cette révolution remet ou bascule les choses, reprogramme ou remet les choses en place, c'est-à-dire nous enlève nous sur la chaise principale et met Dieu sur la chaise principale. Et la seconde chaise, c'est notre prochain. En fait, tu n'as même pas de chaise. Parce que dans ce verset-là, je ne vois pas où on cite ton nom. Mais on cite Dieu, on cite le prochain et tu n'es pas là. Je vois des gens qui me regardent et disent « De quoi tu parles, merde ?» Je me suis mis même moi-même. La révolution, ça veut dire la révolution. C'est donc le message que Dieu nous a donné à cette église. Nous devons donc l'assimiler, l'adopter et vivre ce message, aussi le répandre partout. Dieu nous donne la responsabilité de le répandre. Donc vous entendez beaucoup la rade, dis un peu rade. Rade, c'est juste un diminutif. Comment on dit quoi? Dimi ou dimi. Okay, ceux qui sont des dimi disent yé. Ceux qui sont des dimu disent yé, comme vous voulez. Mais c'est la version diminuée. C'est la version diminuée de la révolution des amoureux de Dieu. La rade, la version diminuée de la révolution des amoureux de Dieu. Un bénéfice important de ce message, c'est un message prophétique, c'est-à-dire que c'est pour le temps de la fin. Un bénéfice de ce message, c'est que nous serons préservés de l'iniquité grandissante des derniers temps, prophétisée par Jésus-Christ. Jésus-Christ explique dans le livre de Matthieu, chapitre 14, on ne va pas lire, je vais juste expliquer. Il explique les signes de la fin de temps. Il dit que, en fait, les disciples posent la question, comment comprendrons-nous que c'est la fin du temps? Comment saurons-nous? Où sont les signes de la fin du monde? Jésus-Christ explique, il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Vous entendrez parler de l'URSS et les États-Unis. Vous entendrez parler de la Syrie. Vous entendrez parler de l'Afghanistan. Vous entendrez parler de l'Égypte. Vous entendrez parler de... C'est où encore que ça barde encore ces derniers temps? De l'Ukraine, de la Crimée. On veut la crémer. Vous entendez parler de toutes ces choses. Vous entendez parler de l'Est de l'Afrique, de l'Est du Congo. Vous entendez parler de quoi? De la République centrafricaine. Il dit, vous entendrez parler de toutes ces choses. Ça veut dire que la fin est là. Vous savez, deux fois, ce qui me trouble un peu. J'ai l'impression que quand Dieu parle ici, cette Bible ici, normalement, devrait être un peu comme notre GPS. Pour les chrétiens se lèvent le matin, consultent le GPS, et puis voient comment ils mènent leur vie, et comment est-ce qu'ils programment leur vie, comment tu mènes ta vie. Mais les chrétiens sont, à mon avis, deux fois les plus dupes dans l'histoire. Vous savez quoi? J'observe comment les nations sont en train de fonctionner, les pays fonctionnent. C'est pas, écoutez, on a dit que l'économie n'est pas bonne, et vous voyez, la guerre commence, les guerres partout. C'est comme si les gens essaient de s'accaparer de ce qu'il y a dans tous les autres pays pour essayer de se positionner avant la fin de temps. Mais ça veut dire que les gens comprennent que les choses s'empirent. Les chrétiens, par contre, eux, vivent comme vraiment à la plage. Ah, Seigneur, lève ta main et te dis, Seigneur, aide-nous. Nous vivons des temps sérieux. Lisons la parole de Dieu et positionnons-nous. Alors, il dit... Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux famine. J'étais surpris de voir que grec, vous connaissez les Grecs, la Grèce, de voir que les Grecs font la ligne, les Grèciens. Ok, les Grecs font la ligne pour aller demander le pain, l'empire grec. Maintenant, les citoyens demandent le pain. Je suis sûr que Dans certains pays de l'Afrique, s'ils apprennent, ils vont dire, je ne veux pas avoir un visa de la Grèce. En tout cas, de la Grèce. Mais vous voyez comment les signes de temps commencent à se présenter. Le chrétien doit être réveillé. Alors Dieu nous donne maintenant un message de la fin du temps. La rague, c'est un message de la fin de ce temps. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 24, chapitre 12. Il dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que l'amour peut se refroidir. Tu ne peux pas considérer l'amour que tu as pour Dieu comme un acquis. Rien ne prouve que, en fait, tu... D'ailleurs même, Jésus-Christ dit dans le livre d'Apocalypse, à la fin, il parle à l'Église, il dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez perdu, c'est ça? Vous avez perdu votre premier amour. Comme pour dire que l'amour, tu ne peux pas considérer que l'amour que tu as pour Dieu va demeurer. Alors, il faut un travail conscient pour maintenir non seulement l'amour, mais qu'il continue à augmenter. La rade, donc, c'est le message qui va te rendre violent, radical pour maintenir ton amour. Parce qu'elle me dit que dans les derniers temps, à cause de la progression du mal, le mal va continuer. Le mal va tellement augmenter. Vous savez quoi? J'ouvre une parenthèse. J'ai fait un petit tour dans mon pays d'origine, le Congo. J'étais surpris de voir que les choses qu'on voulait même pas, les choses qu'on cachait, comme les sectes, on les cachait. On dit seulement, ah, là-bas, c'est le Rosicristien, là-bas, c'est le... Maintenant, vous allez là-bas, mais les buildings sont avec des panneaux partout. Les choses qu'on cachait, maintenant, c'est devenu... On recrute même, ouvertement. C'est quoi mon point? Le mal grandit. Le chrétien doit donc vraiment se positionner. Alors, l'amour peut augmenter, diminuer, et ce message vient donc pour intensifier, t'aider à intensifier ton amour pour Dieu, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et dans ses griffes. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Alors, écoutez, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu ne se compare jamais avec Satan, mais il se compare avec les biens et les richesses. La Bible dit, si vous voyez par exemple... Quand Dieu explique ou quand Dieu parle d'attachement et d'amour, il explique qu'il est en compétition avec les possessions, avec les richesses, pas avec Satan. Par exemple, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 10, je lis, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il te donne. Garde-toi de ne pas l'oublier. » Donc, quand tu as mangé, que tu es satisfait, quand tu as les biens maintenant, Dieu dit que les biens risquent de te faire oublier, garde-toi de ne pas oublier Dieu. Garde-toi de ne pas oublier Dieu. Quand tu seras arrivé aux États-Unis, que tu auras eu ton boulot, garde-toi de ne pas oublier Dieu. Bon, je ne te pointe pas le doigt, mais je pointe le doigt. Quand tu auras eu ton diplôme et que tu as eu tes contrats, que tu as maintenant des connexions, garde-toi de ne pas oublier Dieu. C'est ce qu'il dit. Quand tu auras eu les possessions, maintenant que tu es manager, garde-toi de ne pas oublier Dieu. Donc Dieu se met en compétition avec les biens. Dans Luc chapitre 16, verset 13, Dieu dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. En fait, Dieu essaie de nous prouver ici que c'est impossible d'aimer deux personnes ou de tomber amoureux de deux personnes. Donc, si cet homme-là dit qu'il aime deux, en tout cas... Ok, il dit, et ça, où tu aimeras l'un, tu t'attacheras à l'autre. Tu ne peux pas, Dieu montre ici que tu ne peux pas aimer deux maîtres. Tu finiras par haïr un. Et ici, Dieu n'est pas en train de parler de Satan, parce qu'il dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman est un mot d'origine araméenne, qui signifie richesse. Donc Dieu dit ici que je suis en compétition avec les richesses, pas avec Satan. Je suis en compétition avec les richesses, pas avec Satan. On pense, en hébreu, le mot vient de mammon qui veut dire trésor, argent. Pourquoi on parle de Satan alors, comme si c'était celui qui détruisait, attaquait nos vies, nous déviait de Dieu? Parce que celui qui est derrière la promotion de l'amour, des richesses, c'est Satan. Il fait la promotion. Il fait la promotion par les gens, les agents, par les agents qu'on appelle crowd pullers, les agents qui passent à la télévision avec... bijoux diamants, avec bling. Comme ça, you are poor, watch me, I'm blessed, bling. Comme ça, tu es assis en train de dire, qu'est-ce que je fous ici à McDonald's? Vous voyez? Donc, le diable utilise la télévision, la musique, tous les moyens possibles, les magazines, tout ça là, il vous met des femmes photoshopées. C'est-à-dire qu'il prend tout, il utilise tout son possible pour te faire tomber amoureux des biens. Ah, il utilise le rêve américain, j'ai oublié. Bien aimé, moi, je ne poursuis aucun rêve, pas américain. Je poursuis le rêve de Dieu. Ah oui, avant vous dire comment les gens ont poursuivi le rêve américain. Ils ont pris des grosses dettes pour louer dans des grosses carrosses. Ils ont poursuivi le rêve américain. Piégé par le diable. Je vais vous dire comment le diable fait. Maintenant que tu poursuis ces choses-là, tu dois maintenant payer. Ils vont t'appeler pour dire, samedi soir, quand tu te prépares à aller à l'église dimanche matin, ils t'appellent samedi soir pour dire, au fait, tu n'as pas encore payé ta carte de crédit ou bien ton loan. Maintenant, tu regardes la voiture, tu dis, ah, je dois la payer. Quand on te rappelle samedi matin, et puis, on t'appelle samedi matin pour toi à la dette. Samedi vers 15h, le boss appelle, dit, we have double for Sunday. Tu dis, you know what, I'm coming. Je voulais servir Dieu, mais je suis pris en otage. Qui t'a demandé d'aller prendre cette voiture grosse-là? Oh non, le rêve américain. Vous savez, quand je commence à réfléchir, nous-mêmes nous mettons en prison, nous-mêmes. Tu te lèves le matin, le diable dit, j'ai un rêve pour toi. Tu dis merci pour le rêve. Tu entres et maintenant tu ne sais plus servir Dieu. Pris en otage. C'est ce que les richesses font. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit, donc le diable fait la promotion. Rappelez-vous que Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, le diable a fait la même promotion à Jésus-Christ. Il dit, regarde, au lieu de souffrir, je vais t'offrir les biens de ce monde. Les biens, il est derrière la promotion des biens pour te dévier de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu, quand il parle, il explique qu'il est en compétition avec les richesses. Pourquoi y a-t-il cette compétition entre Dieu, en fait, et les possessions? C'est parce que les possessions et les richesses promettent d'offrir les mêmes choses que Dieu promet. Tu auras la gloire, la célébrité. Tout le monde va t'aimer. Quand tu vas passer, on va dire... Oh! Tu auras les blings que les gens cherchent. Vous savez quoi? Les gens qui acclament, vous acclamez comme ça, c'est la convoitise. Tu sais, moi, on te dit, hey, si moi aussi je pouvais avoir les biens comme ça. Et puis tu vois quelqu'un de vraiment. Il a l'argent d'aller faire la coiffure que tu penses que tu peux faire là. Vous savez, c'est drôle. J'ai même réalisé que les dames ici peuvent te dépenser vraiment de l'argent pour les cheveux. Il faut un budget. Il faut qu'on inclue, chérie, on doit inclure ça dans le budget. Non, mais c'est sérieux. $250 pour qu'on te fasse une coiffure qui peut durer bon. Vous vous connaissez même, vous connaissez. C'est quoi mon point? Non, suivez-moi. Ces gens-là, alors quand tu regardes, quand tu dis, la richesse te dit, je te promets la célébrité. Les gens viendront à tes pieds. Vous savez que Dieu a promis à Israël, à Juda, il a dit, tes frères viendront s'humilier devant toi. Les choses que Dieu dit là, l'argent promet aussi. Dis-moi aussi, je veux faire. Tu auras les possessions. Tout ce que tu veux, tu auras. Le repos. Tu auras des serviteurs qui vont travailler pour toi. En fait, l'argent dit, je pourvrai tes besoins. Je te protégerai. Tu seras en sécurité. Tu auras les gardes-corps. Je me suis demandé, quand le président la meurt, où vont leurs gardes-corps? Mais l'argent dit, tu seras en sécurité. Tu auras l'assurance maladie. Tu auras l'assurance accident. Est-ce qu'il y a ça? Bon, il n'y a pas. Tu auras l'accident. Alors, il y a l'assurance accident. Donc quoi? Dans l'accident, tu es dismembered. On va remettre tes membres. Mais moi, je ne veux pas qu'on me paye. Je veux qu'on remette la jambe là. C'est ça le point. Donc, écoutez, tu auras tout ça. Et puis tu dis, ouh, I need money. En tout cas, I need. Seigneur, you know I need. Mais en même temps, suivez-moi, Dieu vient vite pour dire, ne cherchez pas l'argent. Oh, quelle contradiction, quelle révolution. Et puis il dit, ne poursuis pas l'argent, ne poursuis pas. Ne donne pas la priorité à la poursuite de l'argent. Parce que l'argent détruit. Première raison, il dit que parce que l'argent détruit. Proverbe chapitre 15, verset 27. Celui qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur. Mais qui déteste dans le malheur. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui prolongent les hommes dans la ruine. Oh, je veux m'enrichir, je tombe dans la ruine. Dieu dit, tu tombes dans la ruine quand tu poursuis. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi, se sont jetés. Eux-mêmes, on ne les a pas poussés. Eux-mêmes se sont jetés dans bien de tourments. Je dois avoir. Alors, vous allez me dire, mais Bishop, nous on connaît des gens qui ont l'argent, et ça va. Laissez-moi vous citer quelques personnes qui ont eu l'argent. Whitney Houston. Beaucoup d'argent. Elle est morte dans la toilette. Morte dans la toilette. Bon, baignoire dans la toilette. Elvis Presley, les gens venaient à ses pieds. Est mort dans la toilette. Fais attention, tu risques de mourir dans la toilette. Vous savez, pas pour rire, mais vous savez qu'on appelle Elvis Presley the king of rock and roll who died on the throne. On the throne. Bathroom throne. Non, c'est ce qu'on dit. On a écrit Elvis Presley. Allez chercher. Écrit Elvis Presley, the king who died on the bathroom throne. Mais comment? Ils avaient les gens qui étaient à leurs pieds. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à mourir, à se suicider, à mourir dans la toilette quand tu as tout ce que tu as là? Mais attendez. Juste que nous, quand on réfléchit, on se dit, vraiment, Seigneur, moi, si tu pouvais être béni comme ces gens-là, Seigneur, moi seulement, si on me donnait seulement. Qu'est-ce qui peut faire que cet homme-là, avec tout ça, que toi, tu comptes te penser prêt à voir, il meurt sur le trône, dans la toilette. Ah, j'ai oublié. Michael Jackson. Oh, attendez. Et Jimi Hendrix. Vous connaissez Jimi Hendrix? Lui, il est mort de vomi. On a voulu le ramasser avec vomi sur lui, même partout. Vomi. C'est comme ça qu'il est mort. L'homme est considéré. C'est-à-dire que la richesse de ces hommes-là était en français, il est méchamment riche. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, j'ai oublié dans la liste, il faut inclure Judas. Lui, en tout cas, bon. Peut-être qu'ils n'avaient pas les toilettes là, les toilettes. Mais si, c'était la génération ici. Peut-être qu'il allait aussi. Bon, lui, il est allé sur un arbre. Et c'est là qu'il s'est suicidé. Judas. Pourquoi vous riez? À quand? Lui aussi. C'est-à-dire, je dois voir les blings. En tout cas, Dieu, je sais que tu ne veux pas qu'on cherche ça, mais moi, je veux. Toute sa famille a été brûlée. La liste continue. Alors, pendant que l'argent te promet, Dieu explique que l'argent détruit. Vous savez qu'en passant, j'ouvre une parenthèse, l'argent rend les gens mauvais. Les gens qui étaient bien, écoute, aide-moi. Dès qu'il a un peu, il achète une maison pour que vous ne veniez plus. Tous les cousins, les tantes, ils disent non, parce que. En tout cas. Donc, il se barricade avant. Vous savez, hein, moi j'ai vu des frères, des gens viennent de nos pays là. Il a bien prié pour le visa. Il peut te faire 3 ans, 4 ans, il dort par terre. Seigneur, donne le visa, je dois aller. Papa, Seigneur, je t'aime. Oh, élevant son nom. Tout ça, ils font. Il a le visa, il vient. Il a encore la chaleur des prières de visa. Donc, quand il arrive ici, il vient d'arriver. La chaleur des prières de visa est encore là. 2 semaines, dès qu'on lui met le badge ici, manager, c'est là que vous allez voir que tout ça, c'était parce qu'il voulait avoir le visa. C'est tout. Ouais, le voyez, il vient à l'église. Maintenant, il commence à expliquer. Bon, vous voyez, nous sommes busy. Nous sommes busy. Ah, en tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Dieu a dit ceci. Quand tu arriveras dans le pays et que tu mangeras, garde-toi de ne pas oublier l'Éternel. Bien aimé, quand Dieu dit garde-toi, ça veut dire ceci. Que ne commets pas l'erreur. Vous pensez que tout ce que Dieu peut donner, c'est seulement le visa. Alors pourquoi tu peux prier pour le visa et oublier qu'il peut continuer à te garder dans le pays où tu es envoyé? Est-ce que ça a du sens? Joseph donne l'argent à ses frères. Il dit, prenez l'argent. Il les congédia. Ils partirent. Et puis il dit, ne vous querellez pas en chemin. Parce que dès que vous avez l'argent, vous devenez dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir l'argent? Non. Il faut en avoir, et même beaucoup s'il le faut. Moïse dit à Pharaon, on ne va pas te quitter sans nos biens. Parce que Pharaon dit, sortez. Si vous voulez servir Dieu, partez sans l'argent. Moïse dit, jamais. Donne tout l'argent ici. On doit partir. Dieu dit à Israël, prenez la banque de l'Égypte, sortez avec. Dieu, c'est Dieu qui a donné le conseil. Prenez les biens des Égyptiens, sortez avec. Pharaon se réveille le matin, il voit Federal Reserve est parti. Ah, suivant. Salomon était le serviteur de Dieu qui a été rendu plus riche que jamais. Ça veut dire que Dieu ne dit pas, il ne faut pas avoir. Deutéronome 16, même Dieu dit, ne viens même pas dans ma présence sans... Il dit, non, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Donc, amen. Donc, Dieu veut que tu amènes. Mais pourquoi ces gens alors ont été détruits? Parce que tu ne peux pas posséder l'argent. L'argent te possède. N'oubliez pas ça, retenez. Tu ne peux pas posséder l'argent, l'argent te possède. Ça veut dire ceci, la force ou la puissance... Pour avoir, n'oubliez pas que l'argent était maître. Il me dit que maître, c'est un maître. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Ou c'est Dieu, ou c'est maman, l'argent. Si c'est un maître, toi là, tu ne peux pas le contrôler. Ça veut dire que tu as besoin de la force de Dieu pour contrôler l'argent. Il a dit que c'est un maître. Tu ne peux pas contrôler un maître. L'argent te dira, si tu m'aimes moi, voilà ce que tu feras pour moi. Parce que c'est un maître. Mais quand tu as Dieu, tu auras donc le pouvoir de contrôler ce maître-là qui est l'argent. Lisons Deutéronome chapitre 8, verset 18. La Bible dit, tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui... On est là, nous sommes ensemble. Vous avez ça? Ah, lisons là-bas, vite, s'il vous plaît. Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui... Hein, il te donne... Oh, il te donne quoi? La force d'acquérir, autrement, il te donne la puissance de dominer sur les maîtres, qui est l'argent. Ce qui fait que maintenant, quand tu as le pouvoir de Dieu... Tu peux avoir l'argent sans que l'argent te possède. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Sinon, écoutez, bien aimé, quoi que tu dises, si Dieu n'est pas en première place, l'argent va te dire quoi faire. Amen. C'est l'argent qui te dira quand aller au travail. Et même trahir Dieu dans le parcours. Dieu donc donne le pouvoir de posséder l'argent quand tu le mets au service de Dieu. Vous allez remarquer que l'argent était associé au service de Dieu dans les exemples qu'on a donnés. Moïse a dit, nous devons aller servir Dieu avec nos biens. Dieu dit à Israël, prenez l'argent, mais allez me faire un tabernacle. Salomon devait construire un tabernacle pour Dieu. Et l'argent, ici, Dieu dit, vous ne venez pas devant l'Éternel les mains vides. Donc, l'argent servait à servir Dieu. Laissez-moi vous expliquer comment tu peux couper la tête de ce maître, l'argent, sinon il va te contrôler. La première chose, quatre choses à faire. Un, donne ta dîme. Les gens débattent pour savoir si la dîme, c'est le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. La dîme est un principe divin qui existe depuis. Ça n'a rien à voir avec le Nouveau ou l'Ancien Testament. Ça n'a même pas à voir avec la loi, mais ça a à voir avec le principe de Dieu, dîme. Genèse chapitre 14, verset 20. Béni soit l'Éternel, le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna dîme de tout, la dîme de tout. Quand Abraham donna la dîme de tout, la loi n'existait même pas. La loi est venue dans Deutéronome, dans Exode avec Moïse. Donc, avec Abraham, la loi n'existait pas. Mais Dieu a déjà enseigné à Abraham à comment donner la dîme. Dis un peu, je brise la tête du maître. Dis encore, écrase la tête du maître. Tu écrases la tête de ce maître, la maman, en donnant ta dîme. Il ne va pas te contrôler. Jacob, avant la loi, dit cette pierre, Genèse 28, 22, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné. De tout ce que tu m'as donné. Il honore Dieu avec la dîme. Deuxième chose qu'il doit faire, l'offrande. C'est que tu donnes à Dieu volontairement pour l'accomplissement de sa volonté. C'est l'offrande. Dieu ne te force pas, mais c'est que tu donnes à Dieu volontairement pour l'accomplissement de sa volonté. C'est ça qu'on appelle l'offrande. Volontairement. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour toi, pour ta maison? Qu'est-ce que je peux faire? Tu as une volonté. Tu veux qu'on construise un tabernacle. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà ce que j'ai. Je te l'apporte. Volontairement, tu donnes à Dieu. Est-ce qu'on peut dire offrande? C'est la deuxième chose que tu fais pour briser, écraser la tête du serpent. Pour ne pas finir dans la toilette. Exode chapitre 25, verset 2. Dieu dit ceci à Israël. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Bien aimé, des fois c'est compliqué pour nous, certains, de venir donner l'argent. Mais c'est Dieu qui nous envoie. Ici, Dieu a envoyé qui? Moïse. Il dit, Moïse, parle. Est-ce que Dieu, tu ne peux pas aller seul? Il dit, non, toi Moïse, va dire à mes enfants qu'ils me donnent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout ce qui la fera de bon cœur. Quatrième chose. Quoi, quatrième chose? Troisième, l'aumône. C'est que tu donnes pour assister les nécessiteux. Ceux qui ont besoin. Et il me dit que Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu comme un monument. Tes prières et tes aumônes, quand tu fais ça, vous allez remarquer que, par rapport aux aumônes, Ésaïe 58, 7, 8. Là, il me dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Vous allez remarquer que dans ces deux exemples, dans ces quatre exemples, que ce soit la dîme, que ce soit l'offrande, que ce soit l'aumône, vous allez remarquer que ces choses attirent la présence de Dieu. Amen Dieu. Pourquoi? En faisant ces choses, tu lui donnes la première place. Et Dieu vient atterrir dans ta vie. Dieu atterrit dans ta vie parce que tu lui donnes la première place. Il a la première place. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tu honores comment? Avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Le deuxième degré, et c'est le degré le plus élevé, le quatrième degré, le degré le plus élevé, c'est quand tu dis à Dieu, je mets tout à ta disposition. Pas seulement la dîme, pas seulement l'offrande, pas seulement le monde, mais tout ce que j'ai est à toi. C'est le degré le plus élevé. Je me rappelle quand je rentrais de l'Afrique une fois, Dieu m'a enseigné ça. Je rentrais de l'Afrique une fois, je ne sais plus où j'étais. En partant, ma chérie m'a dit, si Dieu veut que tu partes, alors il va te donner l'argent. Dieu me dit, si c'est moi qui t'ai envoyé, trouve l'argent. Je dis, ah, bon, on fait quoi là? Dieu, par sa grâce, avant de partir, il m'a dit, non, il m'a dit ceci, vous prenez des dettes pour vos maisons à vous. Pourquoi quand moi je t'envoie, tu dois attendre, maintenant fais ce que tu devais faire, même si tu n'avais pas d'argent. Je réfléchis, je dis, ok. Je demande à un frère, dit, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour acheter un billet? Il me dit, ça va. Il m'écrit un chèque, je prends l'argent, je pars. Alors j'arrive là-bas, gloire au Seigneur, Dieu se glorifie puissamment, vraiment puissamment. Mais quand j'étais parti, j'avais seulement le ticket et $50 dans ma poche. As-tu déjà eu $50 pour deux semaines à l'étranger? Donc, je priais, je transpirais avec violence. Amen. Je dis, Seigneur, quand ces choses sont finies, je ne sais même pas. Parce qu'ils m'ont invité pour 3 jours. J'avais une semaine de vide, de rien. Eux, ils m'ont logé à l'hôtel. Pendant que je prêche, je disais, aujourd'hui, je suis homeless dès que j'ai fini la prédication. Je prêche. Et puis, il m'amène dans la chambre. Je dis, bon, il me dit, bon, en tout cas, pasteur, merci que Dieu vous bénisse, tout était bien, vraiment, gloire au Seigneur. Et la chambre, on l'a libérée. Je dis, oui. On va la libérer. $50. Je suis en train de réfléchir. Et puis, il me dit, non, oui, on doit te libérer, mais on a donc loué un autre endroit pour toi parce qu'il y a des églises qui ont entendu parler de ce que Dieu avait fait. Donc, ils ont loué pour moi un hôtel qu'on appelle, ce qui a déjà été, bon, en tout cas, un grand hôtel. Et ils m'ont dit, tu vas là-bas, habiter là-bas. J'entre dans l'hôtel, je regarde, j'appelle ma chérie, je dis, écoute, l'hôtel est formidable, je fais quoi? C'est comme s'ils pensent que je vais payer. Moi, des choses comme ça, là. Elle me dit, non, sois sage, appelle pour savoir, est-ce que c'est qui paye? Je dis, merci pour la sagesse. J'appelle, dis-moi les gars, qui paye ici? Je dis, non, mais c'est nous qui avons invité. Je dis, vous? Je jette le coussin, je monte sur le lit. Alors, suivez-moi. Dieu, par sa grâce, se glorifie et des gens touchés me donnent l'argent. Je rentre, tout l'argent que j'avais pris, des dettes, tout ça là, je remets. Puis Dieu me dit, le reste, tu me donnes à moi. Je dis, Seigneur, tu sais bien que je suis parti avec des dettes. Je rentre, je donne encore. Il me dit, tu me donnes. Je dis, Seigneur, j'ai déjà donné beaucoup d'offrandes là-bas. Il me dit, tu me donnes. Elle m'explique ceci. Voilà l'explication. Il me dit ceci. Que ce n'est pas parce que tu as donné une fois, un jour, une fois, que c'est fini, que Dieu ne vienne plus jamais demander. Non. Il m'a dit, tu n'as rien. Tout est à moi. Toi, tu es un gérant. C'est à moi et je prends quand je veux. Tu es un gérant. Dis un peu gérant. Il dit, c'est à moi et je prends quand tu veux. Si tu ne donnes pas, alors tu n'es pas obligé de me donner, ne me donne plus rien. J'ai pris toute la liasse. J'ai amené à l'église. On avait un projet, je ne me rappelle plus. Ah, on devait refaire ce bâtiment. J'ai donné l'argent. Je suis rentré main vide. Longue histoire courte pour montrer comment Dieu agit. Je crée le vide, me dit, je peux te faire confiance avec l'argent. Prends un peu un 10 000. Quelqu'un vient, 10 000, bien aimé, 10 000 dans une enveloppe. Les nouvelles liasses, l'odeur, dès que tu ouvres l'enveloppe, l'odeur t'embrasse. 10 000, hein? 10 000, 10,000. 10,000. Mais vous savez quoi? À cause de cela, Dieu a fait grâce, il a brisé la tête de ses mamans. Bien aimé, qu'il y ait 10 000, qu'il n'y ait pas, ça ne me fait rien. Je vous assure. J'ai reçu des choses que. C'est-à-dire, je ne demande pas. Dieu dit, si Dieu peut te faire confiance, il n'y a plus de problème. Mais Dieu nous appelle voleurs quand nous accaparons de ses biens. Quand Dieu commence à demander, tu commences à expliquer, Dieu dit, tu es voleur. Allez lire Malachie. Il dit, je vous appelle voleur. Pourquoi? Vous me donnez des choses, il dit, des brebis chétifs, des brebis boiteuses. Ça dit ceci, ok, l'église a besoin de quoi? Une table. Je cherche un peu la table que je voulais jeter à la maison. Ah, voilà, j'ai trouvé la table. Amenez ça à l'église. Une télévision? Oui. Non, mon frère. Une télévision YouTube. Lui dit, une télévision, on frappe dessus pour que ça fonctionne. On amène à l'église. Comme ça, comme ils savent imposer les mains, ils imposent les mains sur la télé. Ils ressuscitent la télévision. Non, nous on donne... Écoutez, une chose cassée, tu dis, si je dois donner la YouTube, là, voilà, la télévision avec la queue derrière, là, donner, mais flat screen, là, je garde. Alors Dieu dit, vous êtes des voleurs, parce qu'un gérant ne décide pas comme ça. Tu as été placé comme gérant, bien-aimé. Je pense que, permettez-moi le mot, on est culotté, courageux. De penser que Dieu doit te supplier pour ton temps, ton énergie, et même des fois quand tu donnes, tu dis, mais il faut qu'on me paye, qu'on me remette même un peu mon essence. De quoi tu parles? Moi, j'appelle ça culot. Pense à tout ce que lui a fait. Maintenant, réfléchis si vraiment tu dois dire, même parler comme ça. M'amener les choses. Et puis il dit, maudit soit le trompeur qui dans son troupeau a un mal, a des bonnes choses, hein, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Donc il a des bonnes choses. Mais dit non, donnez-lui. Mais dit, dit, prends, on va donner ça à l'Éternel. Dieu dit, maudit soit le trompeur. Dit, maudit le trompeur. Qui a des bonnes choses et lui donne des mauvaises à Dieu. Il dit, je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Mon nom est redoutable parmi les nations. Il ne faut pas badiner avec moi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait dans ma maison. Et puis il dit, je menacerai la tête de ce mammon-là. Je vais chasser ce mammon. Je pense que nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que nous ne le mettons pas à la première place comme il se doit. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Celui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes choses. Si donc vous n'êtes pas fidèle dans les choses, dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables, les choses éternelles? Vous aurez la gloire comment? Parce que même les choses simples ici, de donner la dîme, de donner l'offrande, servir Dieu avec les biens, vous ne le faites pas. Comment on va vous donner la gloire? Parce que la gloire de Dieu lui-même, il se donne à nous quand nous savons le respecter dans les petites choses. C'est là qu'on honore Dieu. Bien aimé, il ne faut pas croire que servir Dieu s'arrête à un dimanche comme ça quand tu es venu à l'église. Non. Servir Dieu, c'est même dans tes finances. Vous comprenez? Et Dieu dit ici que si tu es fidèle, même dans les finances, là, je pourrais alors te faire confiance avec les choses éternelles. Parce que tu es fidèle dans les choses. Dieu considère l'argent des choses éphémères. Il dit, ça là, non. Laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que tu auras sur cette terre va expirer un jour. Tout. Tu peux travailler comme tu veux. Tout ce que tu auras sur cette terre. Et d'ailleurs, même des fois, ces choses énervent. J'entre dans la voiture, j'allume. Relativement neuf. Quoi, quoi. Je dis, c'est quoi ça encore? J'amène ce mécanicien. Qui lui sait que tu ne sais même pas de quoi il parle? Il dit, tu vois le bijoulier. Je me suis dit, what are you talking about? Il dit, bon, la connexion, il explique. Quand il a fini, je dis, how much? Il dit, I don't know yet, mais je pense déjà que c'est dans les 500. Ça dit, bien aimé, suivez-moi. Je sais qu'on court derrière tout ça. Les gens sont morts à cause de ça. Est-ce que tu veux aussi passer par là? Tu veux que ça t'étrangle aussi? Dieu dit ceci, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ah, tu dis, mais pourquoi je travaille? Travaille, tout ce que tu fais, que ça fasse la promotion de l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu fais sera passager si ce n'est pas pour Dieu. Ça sera éternel si c'est pour Dieu. Le monde de Corneille est allé au ciel. Il a donné aux gens physiquement, mais au ciel, c'était un trésor. Dieu dit, amassez-vous des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un trésor à amasser dans le ciel. Beaucoup d'entre nous, un jour on arrivera au ciel, on a seulement chanté à l'église. On arrive là-bas, on dit, you only have a penny. Donc ce qu'on va faire pour toi, c'est de rester dans ce coin-là. Est-ce que tu as honoré Dieu? Vous savez, je prie que quelque part, tu te poses la question, qu'est-ce que même je fais avec mon argent? Vous savez, des fois quand on passe à l'église, on annonce, voilà, l'église a besoin de ça, l'église a besoin de ceci. Deux fois, je regarde notre attitude. C'est comme si on parlait de la maison d'un étranger. Et pourtant, on est ici pour recevoir tous les jours et Dieu nous bénit. Mais quand on parle des besoins qu'il y a, c'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre. C'est comme si on disait, bon, Dieu est grand alors qu'il se débrouille. Bien aimé, je veux que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu fais de tes biens? Est-ce que c'est pour look swag? Soit que ça veut dire, bon, je vais bien m'habiller, je vais bien faire ceci. En fait, vous vous dites, non, mais bichot, toi tu dis, mais toi tu es bien habillé. Je vais vous donner l'histoire de comment je suis habillé. Mais non, c'est vrai, parce que en fait, vous savez quoi? C'est pas que c'est bien de bien s'habiller. Mais je vais vous dire une chose. Quand tu veux vraiment honorer Dieu, dis-toi que j'honore Dieu, que sa volonté soit faite, même si je n'ai pas nécessairement ce que je demande, mais que Dieu soit glorifié. Parce que vous savez quoi? Laissez-moi vous apprendre comment je suis habillé. Je prêche. Quelqu'un se moque de mes habits. Il dit, quand j'ai terminé de prêcher, il me dit, homme de Dieu, tu as bien prêché, mais tu es mal habillé. Il dit, chauffeur, viens un peu, prends-le demain,
Allons là-bas.
J'allais chasser le démon qui avait parlé, mais j'ai dit, comme il faut le laisser d'abord comme ça. Deux voitures. Le chauffeur entre, il dit, homme de Dieu, choisis le costume. Je prends le costume avec humilité. Il dit, homme de Dieu, je paye. Je dis, je sais. Il dit, laisse tomber. Il dit, il appelle le propriétaire du magasin. Il dit, trouve-lui tout le costume, toutes les couleurs de costume, les genres qui sont dans ce magasin, tout ce qu'il y a ici. C'est son numéro. Le monsieur saute sur moi, content, mais business. Il mesure, il prend tout sur mesure, il sort avec des costumes comme ça. Il dit, voilà, toutes les couleurs. Il dit, homme de Dieu, tu peux prendre. Je dis, ah, il n'y a pas moyen d'être humble ici. Heureux le pauvre. Il dit, homme de Dieu, mets-toi dans la voiture. On met dans la voiture. Et puis il dit, les chemises. Il dit, va acheter les chemises. Achète les chemises. Dès qu'on sort, les autres magasins courent. Il dit, pourquoi vous ne pouvez pas venir ici? Tu es dans un magasin, on peut te fournir. Moi, je dis, non, ce n'est pas pour un magasin. C'est ma garde-robe. Vous savez, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas, je prie pas, je ne me bats pas pour aller prendre les choses. Dieu donne. Il te fait confiance parce que ton cœur n'est plus attaché. Ce n'est pas un trésor pour moi. Ces habits-là, ce n'est pas un trésor pour moi. Jésus est le trésor. Jésus est celui pour qui j'écris des poèmes. Je me lève le matin, je pense à lui. Le trésor te fait penser. David dit, voilà mon trésor. Que ma langue soit habile comme la plume d'un écrivain. Comme ça, mon œuvre sera pour lui. Je ne travaille pas pour me remplir les poches. Je veux que mon œuvre soit pour lui. Quand je travaille, David dit, je vais travailler et avoir assez de richesses pour que je construise la maison de Dieu. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup d'argent. Pas pour me remplir les poches, mais pour construire la maison de Dieu. La pécheresse est venue avec sa richesse qu'on appelle à la batte. Elle est venue, elle a cassé devant les pieds de Jésus. Elle dit, tu en vaux la peine. J'ai accumulé tout ça pendant toute ma vie, mais c'est toi qui en vaux la peine. Prends tout. Prends tout. Le vrai trésor, c'est Jésus. Impérissable. Mais attendez, quand tu lui donnes ça, lui maintenant te donne, lui répond avec sa richesse à lui. Nous allons